et on range nos cheveux sous nos casques. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court. On écoute les artistes tous les soirs pendant une heure. On est ravis de recevoir la chorégraphe, danseuse et tout le reste. Maud Le Pladec.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du coup, t'as pépété, pépé.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Maud Le Pladec.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Sur un plateau blanc, au bord légèrement incurvé, des femmes et des hommes semblent pouvoir offrir simultanément l'expérience du mouvement perpétuel et celle du mouvement suspendu, de l'accomplissement comme de l'inachèvement. Ils sont 10 et autant de versions possibles d'un corps en déplacement. Ils sont 10 et se rejoignent parfois dans une assemblée plus que dans un ballet, si bien que les portées ressembleraient à des élections et les solos, pourquoi pas, aux 12 exercices du pouvoir. On passe son temps à chercher la partition secrète de votre dernière pièce, Maud Le Pladec, et comme un œil lassé de vouloir faire le point, on cède aussi à la très simple beauté de danseurs et danseuses qui sont la musique, la donnent à voir autant qu'à écouter leur danse. 27 Perspectives, c'est le titre de cette pièce, dont la musique est une création de Pete Arden à partir de la symphonie inachevée de Schubert. Elle se joue jusqu'au 3 avril au Théâtre National de Chaillot à Paris, après une tournée qui est passée entre autres par Bourges, Valenciennes, Montpellier, Grenoble, Martigues et Orléans, dont vous dirigez le Centre chorégraphique national. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue.
Merci.
Et ben, on va commencer par parler de Schubert.
En ce qui concerne cette symphonie inachevée, il y a peut-être une autre hypothèse concernant le travail justement de l'inachèvement chez Schubert. Schubert a écrit auparavant 6 symphonies, ou 7, on ne sait pas très bien. En tout cas, il en existe 6 jusqu'à la petite hutte majeure, la 6e, qui sont des symphonies tout entières pénétrées de l'écriture et des proportions des dernières symphonies de Haydn, des symphonies de Mozart et des 2 premières symphonies de Beethoven, avec de temps à autre des aspects d'écriture, en particulier le travail sur certaines tonalités qui viennent de Beethoven. C'est peut-être une des raisons, parmi d'autres, sur lesquels il faut réfléchir concernant cette symphonie en si mineur. Cette symphonie en si mineur, c'est déjà une tonalité assez brutale, assez triste, assez sombre, et il n'est peut-être pas étonnant qu'il n'ait pas pu continuer. Ces 2 mouvements, Allegro Moderato et Andante con moto, sont des mouvements qui sont en fait un seul mouvement, qui travaille sur pratiquement le même matériau dans des tempi voisins. Alfred Brendel parle souvent du statisme de la musique de Schubert qui, à force de moduler, finit par avoir l'air immobile.
Thank you.
C'est Bruno Walter à la tête du New York Philharmonie pour cette symphonie qu'on dit donc inachevée de Schubert. On se permet une archive un peu savante de Jean-Pierre Desrien qui évoque cette symphonie en 1980 sur France Musique, parce que d'une part on sait que ça nous fait pas peur, Maud Le Pladec, et que votre travail de chorégraphe depuis très longtemps interroge la musique, qu'elle soit populaire ou savante ou expérimentale ou que sais-je, d'une manière en tout cas précise, qui n'a pas peur de la précision. Qu'est-ce que vous saviez de cette symphonie avant de vous lancer dans cette pièce-là?
J'en savais pas grand-chose, si ce n'est que je l'avais beaucoup entendu dans certains films de Buñuel ou même d'Agnès Varda. J'ai lu aussi dans Wikipédia que ça avait pu traverser... Enfin, en tout cas, c'est le thème que le dessin animé Les Schtroumpfs utilise pour l'arrivée de Gargamel. Donc ça va de Agnès Varda jusqu'aux Schtroumpfs. Ouais, c'est tout ce que je savais. Évidemment, ça, c'est ce qu'on lit. Après, moi, j'ai choisi cette musique parce que je l'écoutais beaucoup. Ce qui me plaisait finalement, c'est le fait qu'elle soit inachevée, c'est toute l'histoire qu'il y a autour, c'est tout le fantasme aussi que j'ai pu, enfin tout ce que j'ai pu imaginer, tout le fantasme qu'il y a autour de cette inachevée. Pourquoi Schubert n'a pas pu l'achever? Est-ce que c'est la syphilis? Est-ce que c'est parce qu'il était trop occupé? Il est décédé, je crois, il avait à peu près 31 ans, il a dû composer plus de 1000 œuvres, enfin c'est ce qu'on dit aussi, c'est ce qu'on peut lire. Et donc j'ai choisi cette, enfin on a choisi avec Pete Arden cette musique parce que finalement elle était très connue, elle appartenait à la fois à l'inconscient collectif. Moi je sais que c'est une musique que j'avais entendue, mais quand je la sifflote en fait, peu de gens sont capables de me dire ce que c'est, voilà. Et pourtant, comme je le disais, elle a circulé dans tout notre patrimoine, je dirais, populaire, voilà. Et puis, en l'écoutant, je trouve qu'elle est à la fois belle, fantastique, inquiétante. Donc, d'un point de vue purement émotionnel, j'étais habitée par cette musique et ça voulait dire qu'elle pouvait aussi me mettre en mouvement, que ça soit dans la réflexion que je pouvais avoir autour du projet, mais aussi tout simplement dans les visions que je pouvais avoir pour le plateau, voilà. Et après, elle était intéressante dans la manière dont elle était construite, puisque moi, j'avais envie d'utiliser une œuvre de musique, enfin, qui appartenait au répertoire classique, mais d'y appliquer, en tout cas, de la déconstruire. J'avais envie de la déconstruire en utilisant des procédés qui, eux, viennent plutôt de la musique minimaliste. Voilà. Donc, il fallait qu'on dégage des thèmes, il fallait qu'on puisse les faire varier, il fallait qu'on puisse aussi dégager des cellules de 45 secondes ou 49 secondes précisément, les décliner 27 fois. Voilà. Donc, les deux mouvements de cette symphonie nous permettaient, avec Pete Arden, aussi d'établir cette nouvelle partition pour la musique que Pete Arden a créée à partir de la symphonie inachevée de Schubert, et aussi pour la chorégraphie. Donc elle était à la fois belle, pratique, et me permettait en tout cas d'imaginer beaucoup de choses.
Quand vous parlez des visions, moi je sais que c'est une des questions qui m'est revenue en même temps que ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire l'espèce de recherche un peu paradoxale de la partition. J'arrêtais pas de me dire, qu'est-ce qui est écrit pour ces danseuses et ces danseurs, et en même temps, arrête de chercher ce qui est écrit pour ces danseuses et ces danseurs. Et quelle était la vision? Qu'est-ce qui a presque initié, puisque vous dites, ça m'a permis de mettre en mouvement quelque chose.
Il y en avait plusieurs. Alors, lorsque j'imaginais la musique, parce que souvent je lui donne un corps, un esprit, enfin je la visualise, c'est-à-dire que j'arrive à m'imaginer, à la personnifier presque cette musique. Et je me souviens quand j'ai parlé de la symphonie à Pete Arden, ou en tout cas je voulais une sorte de monument historique dans l'histoire de la musique classique, et je me disais, tiens, j'ai envie en fait de l'utiliser d'une manière un peu particulière, j'aimerais bien finalement qu'on mette cette musique sous le plateau, et qu'elle soit tellement forte, tellement vivante, tellement connue, tellement qu'elle fasse vibrer en fait le sol, et qu'elle émerge par fissure, comme si elle faisait craquer le sol, et qu'elle émergeait comme ça par fissure. Voilà, donc on aurait des morceaux de Schubert qui viendraient tout au long de la pièce, traverser les corps, traverser l'espace. Voilà, donc je l'imaginais comme ça, donc comme quelque chose qu'on a enfermé, qui a envie de sortir du plateau.
La presque fluorescence du blanc, en fait.
Exactement.
Pas du tout un blanc calme, hein, voilà. Qu'un blanc qui boue, quoi.
Voilà, exactement. Donc c'est assez simple comme image, mais en même temps, ça permettait effectivement d'imaginer l'espace dans lequel tout cela allait se passer, mais aussi la façon dont on allait utiliser cette musique. Parce que je révèle un peu un procédé qui est pas un procédé, qui est pas, que je ne tiens, c'est pas un secret, voilà. C'est que les danseurs, danseurs, finalement, ne dansent pas sur la musique que vous entendez au plateau. Donc, ils ont un phonacre dans l'oreille et ils sont donc agis par une autre partition qu'on a créée, voilà, pour eux.
Qui est une partition musicale.
Qui est une partition purement musicale, rythmique, avec vraiment plutôt rythmique, avec quelques instructions, mais quand même qui est plutôt une partition musicale. Et donc finalement, c'est ce qui reste de cette musique qu'il y a que j'avais envie de placer comme ça sous le plateau. Donc ils sont eux agis par une sorte de structure, architecture qui est là mais qu'on ne voit pas. Voilà. Au départ, je voulais même qu'on entende.
D'où l'impression quand même qu'il y a une partition secrète.
Oui, il y a vraiment une partition secrète. C'est pas juste une impression. Ils sont sans ce phonak, sans cette partition, ils ne peuvent rien faire. Voilà, concrètement, la pièce n'existe pas. Donc finalement, la chose que je peux enlever, c'est la musique qui est diffusée au plateau. Ça, je peux l'enlever. La pièce existe. Par contre, si j'enlève cette partition qui agit les danseurs, ils sont vraiment perdus. Ils ne peuvent rien faire. En tout cas, il leur restera, ça peut être aussi intéressant, la trace de ce qu'ils ont traversé depuis maintenant une vingtaine de dates. Mais sans cette partition, ils ne peuvent pas être ensemble, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas, voilà, ils sont conduits, agis par cette partition qu'ils ont collée à l'oreille, hein, qu'ils ont dans l'oreille. Voilà, c'est un petit appareil qu'ils ont tous, qu'ils mettent avant d'entrer au plateau. Voilà. Donc ça, c'était la vision que j'avais. Donc elle s'est concrètement, la traduction de ça, ça a été d'en faire une partition musicale que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, qui agit les danseurs. Et l'autre chose, et ça a peut-être à voir, ça a à voir avec Schubert, mais plus ou moins de près, c'est que moi, effectivement, j'ai, après Concrete, qui est une grosse pièce que j'ai faite il y a maintenant 3-4 ans, où lumière, musique, danse agissent, interagissent, et c'est fortement ensemble, et c'était une sorte de gros concert dansé. J'avais envie de repartir d'une page blanche en me disant, donc ça c'est la page incurvée du plateau aussi, donc c'est ça, en focusant, on va dire, sur la musique et la danse de manière très précise. Et j'avais envie de pour cela d'utiliser une musique de facture classique, voilà, chose que j'avais jamais faite. Et Schubert m'inspirait tout simplement, voilà. Et après l'autre vision que j'avais, et puis parce que j'en ai plusieurs, hein, donc je vais terminer avec celle-ci, c'est que j'avais envie d'une sorte de gros chaos organisé, mais extrêmement organisé, ou de solitude, c'est-à-dire que les danseurs étaient ensemble tout en n'étant pas ensemble, agis par une chose qu'on ne comprenait pas vraiment. C'est peut-être pour ça, effectivement, que tout à l'heure, quand tu disais j'essaie de m'accrocher à une chose, mais finalement, je n'y arrive pas, donc au bout d'un moment, j'abandonne. C'est impossible parce qu'en fait, effectivement, ils ont des trajets personnels extrêmement précis qui les met, eux, dans des solitudes, mais qui créent une sorte de, comme ça, forêt, chaos organisé. Et de cette chose-là, en fait, qu'on arrive vers un ensemble, un unisson. Et de voir comment, finalement, comme si l'unisson était une sorte de virus qui infectait ce chaos, comment on passait d'une chose très désorganisée, mais qu'il était pourtant organisé, à quelque chose qui semblait beaucoup plus uni, mais qui, à mon sens, révèle beaucoup plus d'aspérité, de fragilité, puisque danser la danse qui fait cette unisson dans cette pièce-là est peut-être la chose la plus compliquée finalement pour les danseurs.
Voilà. Parce que vous voulez dire les moments où ils semblent en tout cas tous danser la même chose.
Oui, parce que si là je rentre dans la partition, pourquoi? Parce qu'en fait chaque variation comporte 30 comptes. Voilà, ils dansent à peu près la même chose 27 fois, mais pas tout à fait. Et les unissons doivent apparaître entre le 8e et le 11e compte dans la variation Almost Unison One, par exemple, puis entre le 24e et le 26e compte, puis entre le 27 et le 30e compte. Et donc, tout en étant avec le groupe, on doit toujours savoir où est-ce que l'on est dans les comptes et dans la partition. Et ça, pour les 27 variations.
C'est jamais que de la solitude extrême qui, par hasard, dans le compte,
nous
vient
amène
se faire un peu à côté des autres en même
exactement,
temps.
Exactement, pas du tout. Tout est absolument réglé, tout est absolument écrit. Donc ça veut dire que les unissons, si eux les ratent, ils n'existent pas. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué à expliquer.
Non,
si j'avais la partition sous les yeux,
non,
je pense que ça serait plus
simple. Je crois que c'est assez clair. Ça renseigne une autre sensation qu'on a dans ces moments d'unisson, où on se dit tiens, ça ressemble à du ballet, ça me parle de ballet. Par ailleurs, j'ai de la musique classique dans l'oreille. Tout ça semble tout à fait, puis c'est extraordinairement bien dansé. Et en même temps, ça grince. Mmh. C'est un ballet qui grince, quoi. Quelque chose qui, mais quand même vient chercher dans nos imaginaires une chose qu'on a l'air de connaître.
Mmh. Je suis assez d'accord et je suis contente que tu aies vu ça, puisque j'avais aussi envie de tordre la référence classique. C'est-à-dire que ce qu'on a fait de Schubert, c'est assez... Enfin, on y est allé de manière très décomplexée. Hein. C'est les puristes de Schubert, à mon avis, Schubert lui-même se retourne peut-être ouais. dans sa tombe. En tout cas... Ces références balétiques, oui, elles existent.
Avec portée, solo.
Avec portée, tout solo, est là, tout est extrêmement assumé. Il y a une forme d'académisme, de formalisme aussi dans cette pièce. Mais c'est vrai que ça grince. C'est vrai que c'est pas ça. Enfin, moi, évidemment, je serais incapable de faire un ballet. Je viens pas de cette culture-là. Mais j'aimais bien, en tout cas, oui, jouer avec cette référence et voir comment on était sur le fil avec ça. C'est-à-dire que quelque part, on peut se laisser porter par l'aspect assez académique de la pièce, mais on est dérangé tout le temps par quelque chose. Et moi, j'aime bien finalement un ballet qui grince. C'est assez joli comme expression.
Petite idée de ce que Pete Arden a fait avec l'inachevé de Schubert. Dans quel sens diriez-vous qu'il a travaillé, Maud Le Pladec ? Autant d'un point de vue de la texture que on l'entendait tout à l'heure, et c'est pas non plus la première fois dans votre travail de chorégraphe, et j'irais presque même à dire dans votre travail de danseuse, la question du séquençage, du rythme, de l'aspect mathématique qui peut à la fois s'appliquer à la danse, au mouvement. Moi, j'ai aussi beaucoup pensé, en voyant la pièce hier, à tous ces diagrammes, ces photographies de décomposition des mouvements. C'était très très présent dans mon œil. Et je me dis, tout ça, c'est quand même des découpages scientifiques, en fait.
Oui, on l'a découpé de manière très objective, cette musique. C'est sûr que... Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on l'a découpé dans le sens du temps. C'est-à-dire que l'accumulation, on a fait une accumulation, en fait, d'une même séquence qui se répète plusieurs fois. Donc, finalement, le temps est découpé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une dynamique comme ça, avec un continuum qui nous fait voyager d'une manière assez organique. Là, en fait, on est interrompu toutes les 45 secondes et on entend le même thème qui se répète. Donc la sensation du temps que l'on a, c'est une sensation d'un temps interrompu, voilà, entre ici, maintenant et dans 10 minutes, voilà, 10 minutes après. Et après, à l'intérieur de ça, il y a l'idée de la transformation. Et là, c'est plutôt lié à la perception. Alors la perception à la fois visuelle, donc ça c'est le travail que moi j'ai fait avec les danseurs, et la perception auditive, et c'est le travail que l'on a fait ensemble avec Pete et qui a, à mon sens, fait un travail assez extraordinaire avec cette musique. Puisque il a donc rajouté, il a fait apparaître au fur et à mesure tout le feuilleté musical de Schubert, de cette première minute de Schubert. Voilà. Donc on entend la basse, on entend le rythme, ensuite on entend la mélodie, et à partir du moment où tout est installé, là il joue sur l'orchestration. Et donc peut-être vers la dixième fois, on va dire la dixième variation, il va rajouter un feuilleté qui est plus lié musical, qui est plus lié à l'interprétation, où il est allé de la du tout premier enregistrement de Schubert jusqu'au dernier, voilà. C'est-à-dire, je sais plus exactement les dates, mais peut-être qu'il a pris un enregistrement qui date au Japon, qui date de 1950, et il est allé jusqu'au dernier enregistrement. Ce qui fait qu'on a un grain aussi très particulier, et donc là, on n'est plus tellement dans une sensation, je dirais, objective de cette œuvre, mais plutôt...
Vous voulez dire un montage, oui, pour que je comprenne bien. C'est-à-dire, oui. Quand vous dites qu'il a travaillé à partir de tous les enregistrements, c'est qu'il a travaillé... En montant des bouts.
Exactement. En montant, en prenant des extraits de cette première minute de différents enregistrements de la 8e symphonie de Schubert. Voilà. Mais toujours avec, Donc, et ce qui n'était pas simple pour lui, c'est que le tempo, par contre, ne devait pas varier. Donc, et on sait très bien qu'en fonction de l'interprétation, de l'orchestration et tout ça, les tempi varient, quoi. Donc, jusqu'à ces enregistrements, on va dire ces extraits d'enregistrements qui existent, hein, qui sont voilà qu'on peut avoir, il a fallu tout ce qu'il a fait avant, donc les 10 premières variations, c'est lui qui les a composées, qui a recréé Schubert, voilà, avec des il a extrait certaines lignes, voilà, de la musique, lignes rythmiques, lignes mélodiques, et il a réenregistré. Il a gardé, par exemple, le French horn, le cor. Et donc, il a enregistré avec son ensemble Donc, c'est vraiment un gros, gros travail. Il a complètement tout réécrit, en fait. Voilà.
Et ce qui est fou à vous entendre parler, Maud Le Pladec, c'est que ça parle aussi des interprètes. Quand on voit les danseuses et les danseurs, et évidemment aussi renseigné par le titre 27 Perspectives, on se dit, c'est tout un tas de versions possibles du mouvement. Mmh. En ça, c'est comme s'ils étaient tous très soulignés dans la singularité, ce qui n'empêche pas tout ce qu'on a dit de l'unisson, de l'assemblée, etc. Comme si eux-mêmes étaient aussi à chaque fois des petits enregistrements de Schubert différents de 1950 à 2018.
C'est complètement ça. C'est on peut les voir à la fois comme une sorte de mini orchestration ou un instrument seul ou un mini ballet en soi. Enfin voilà. Donc et c'est vrai que moi je me suis, c'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre de la syntaxe ou de la partition, c'était très clair. C'est-à-dire que je suis arrivée avec toute la pièce était écrite, en fait. Et j'avais le choix d'aller jusqu'au bout de ça, encore plus en déterminant le vocabulaire. En proposant au groupe, finalement, de déterminer un vocabulaire qui serait un vocabulaire commun pour tous. Ce que j'ai déjà fait avec sur notre pièce avec un autre groupe de danseurs, classiques. D'ailleurs, c'était avec un ballet. Et j'avais pas le temps d'aller jusque-là et j'avais pas le désir non plus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi des gens qui sont parfois très jeunes, enfin pour certains très jeunes, pour d'autres moins jeunes, mais qui ont des filiations extrêmement précises. Jackie Elder a fait Martha Graham pendant presque 10 ans. Louis Nam, qui est un autre danseur, vient a travaillé avec Anne-Thérèse Kersmaeker. Il a signé une pièce avec Anne-Thérèse Kersmaeker. Simon Felst vient du Ballet de Lyon, d'autres sortes d'écoles belges. Enfin voilà, donc on a des parcours et des cultures aussi, puisque il n'y a pas beaucoup de Français finalement dans ce groupe de danseurs. Voilà, donc j'avais envie. Et puis c'est des personnes aussi qui sont très très différentes. C'est-à-dire que j'ai choisi des gens. J'ai choisi des danseurs, j'ai choisi des gens et des danseurs ou des danseuses qui viennent de pays différents, qui viennent de filiations de danse différentes. Et en me disant que c'est ça qui allait s'exprimer, en fait, à travers une partition, enfin, quelque chose qui était extrêmement précis et très resserré. Et que finalement, ce qu'ils sont allait faire exploser les cadres. Et ça y est, je le vois. Au début, c'était difficile pour eux parce qu'ils survivaient plus qu'ils ne vivaient la danse.
Tout ce qu'ils dansent est écrit par vous?
Non. Tout ce qu'ils dansent est écrit par eux, mais c'est réglé par la musique et par ce que je propose. Et dans une partition qui est tellement serrée que finalement, le seul choix qu'ils ont eu, d'une certaine manière, c'est ce qu'ils allaient faire. Voilà.
Donc, moi,
À l'intérieur du chemin. J'allais le dire, j'ai écrit le chemin et c'est ce qu'ils allaient le faire. C'est à l'intérieur du chemin. Voilà. Mais je me rends compte que maintenant, ce qu'ils ont décidé de faire fait vraiment exploser le cadre et fait apparaître une chose que je n'ai pas choisie. Et ça, on en est là, mais il a fallu attendre ce temps-là pour y arriver. Chaillot, et ça y est, on y est, j'espère.
Le mouvement répétitif, il peut aussi amener à la transe. Il peut aussi amener, ce que cherchent certains chorégraphes, à une forme de maîtrise mentale et physique du mouvement, ce qui ne m'intéresse pas non plus. En fait, j'avais vu effectivement il y a très longtemps un groupe de danse traditionnelle comme ça, et cet état de communion à travers le mouvement répétitif m'avait énormément marqué. Et ça a totalement transformé ma façon de créer. C'est-à-dire que je suis arrivée dans la chorégraphie, effectivement, en entendant dire que chorégraphier, c'est produire une certaine somme de mouvements sur le plateau, occuper le, il y a des expressions comme ça, occuper l'espace, ce genre de choses. Je me suis exercée à pratiquer la chorégraphie. Et puis, en fait, de par mon parcours, mon vécu, qui fait que j'ai dû pratiquer la danse de manière un petit peu clandestine et dans des espaces très contraints et très réduits. Donc ma danse a toujours été une danse qui se place à l'intérieur et qui traverse le corps, qui émane du corps et qui prend place dans l'espace. Ça, mais j'étais encore encombrée avec l'idée de chorégraphier, d'écrire le corps. Et j'ai vu un mouvement dans une danse traditionnelle, mais c'est un mouvement récurrent qui traverse de nombreuses danses, c'est un mouvement un balancier en fait. Et ce balancier, c'est un mouvement qu'on fait naturellement quand on se sent, quand on se sent bien ou quand on a envie de se détendre, etc. C'est un mouvement qui crée du lien dans le groupe. Et je suis partie de ce mouvement et je me suis dit, il a quelque chose, c'est comme un point névralgique, ce mouvement est vraiment, transforme complètement la posture mentale, physique. Ça a été mon point de départ et je me suis dit, si je refuse de chorégraphier. À ce moment-là, je crois que j'ai vraiment renoncé au corps, au niveau chorégraphique. C'est-à-dire de me dire, mais c'est absolument pas là que je dois porter mon regard. Il m'encombrait en fait jusque-là.
2018, c'est la voix de Nasera Belaza, chorégraphe qui était venue ici à Parler Temps qui court pour évoquer un peu l'ensemble de son parcours. Quand à la fin, quasiment à la toute fin de votre pièce, Maud Le Pladec, les danseurs et les danseuses se retrouvent alors dans cette fosse au vrai unisson d'un tourné sur soi-même. J'ai pensé à une partie du travail de Nasera Belaza qui peut se rapprocher des derviches tourneurs et de cette manière de tourner. Pourquoi parler de ce moment précisément? Parce que j'ai l'impression que ça touche plus à l'unisson que le reste de la pièce, et que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le ballet grinçant, les assemblées qui n'en sont pas, les retrouvailles qui n'en sont pas, là, moi, j'ai eu la sensation que peut-être si. Sur ce mouvement particulier.
Oui, mais peut-être parce que, et c'est pas pour rien que vous avez choisi cet extrait de Nasera Belaza, puisque finalement, quelque part, à ce moment-là de la pièce, j'imagine qu'on sent moins l'intention du chorégraphe et on sent plus effectivement le geste du groupe, l'expression unique et subjective de chacun sur un motif qui est extrêmement simple et qu'on peut tous faire, tourner sur soi. Et je crois que c'est aussi un motif qui exprime énormément de choses. Et c'est pas pour rien aussi que j'ai choisi de finir cette pièce avec ça. Voilà. C'est que moi, je crois beaucoup plus au geste qu'au mouvement. Je crois beaucoup plus effectivement au fait de bouger que de danser, et c'est comme ça aussi que je me sens en tant que danseuse, c'est-à-dire que j'ai toujours dansé, mais j'ai dansé comment ça a commencé, j'ai dansé à 6 ans en bougeant dans ma chambre, en étant bougée par quelque chose, par une énergie, par un désir de me mettre en mouvement. Donc, et c'est ça en fait, c'est cette essence là en fait que peut-être qui se dégage de ce moment là c'est-à-dire que chacun Et puis aussi,
c'est peut-être le mouvement sans le geste.
C'est le mouvement sans le geste, effectivement. Ou en tout cas, c'est le geste sans. Ce qu'on voit, c'est une intention pure à ce moment-là. Et c'est assez simple à décrire. Ils tournent sur eux-mêmes. Et là, peut-être que le mental cherche moins à comprendre comment c'est fabriqué, pourquoi ils font ça, etc. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose que l'on reconnaît assez facilement et qui, là, on parlait de danse traditionnelle, qui peut-être rejoint aussi un certain folklore qui nous habite tous, etc., etc. Donc. Mais moi, j'aime bien aussi. Moi, je sais que je suis assez mentale. Je suis très très organique, mais aussi assez mentale. Et finalement, ce que je me rends compte, hein, enfin, je vois comment je fabrique les choses et j'entends aussi ce que les gens me disent. Mais j'aime bien toujours essayer de rapprocher des pôles qui sont assez éloignés, l'organique et le très écrit, le ballet, le chaotique, ou je dirais le ballet et finalement l'improvisation. Voilà, j'aime bien aussi penser des structures pour finalement que penser des cadres pour qu'on les explose. Voilà, j'ai toujours cette espèce de paradoxe en moi qui s'exprime beaucoup dans mes pièces. Voilà, j'arrive jamais à faire une pièce que organique ou une pièce que métrique.
Mais peut-être voilà. Parce que c'est possible que ça existe encore, Maud Le Pladec, quand je disais que ça existe encore, que ça existe ensemble.
Oui.
Ensemble encore. Parce que quand je disais ce sont des interprètes qui semblent pouvoir offrir simultanément l'expérience du mouvement perpétuel et celle du mouvement suspendu, de l'accomplissement comme celle de l'inachèvement, c'est que ce dont on se rend compte, c'est que c'est possible que tout soit là.
Ben j'espère.
Non, c'est possible que tout soit là. Et du coup, c'est pas tant une histoire de non-choix que le désir que c'est possible de tout danser, en fait.
Oui, à ça j'y crois. Ça, j'y crois beaucoup. C'est vraiment... c'est vrai que... J'aime bien penser que... Moi, j'appartiens à plusieurs écoles de danse. C'est assez compliqué aussi pour moi. J'ai travaillé très longtemps avec Boris Charmas, mais aussi avec Mathilde Monnier, avec Loïc Touzé. Donc,
alors, pour les gens qui ne savent pas du tout qui sont ces trois personnes, ça offre quoi comme image ou pensée de la danse, par exemple?
Si on met un mot, c'est non-danse, danse conceptuelle, à la française, bien sûr. Et très influencée, finalement, aussi par toute une vague de d'artistes chorégraphiques américains, plutôt qui se situent dans les années 70, qui sont Steve Paxton, Evan Reiner, Simone Forti. Donc, une pensée de la danse, en fait. Il y a comme une pensée de la danse qui est arrivée dans les années 90 en France et qui a finalement, qui n'est pas venue, je dirais, tuer ce qui s'est passé avant, mais qui a vraiment offert un nouveau paradigme pour la danse. En tout cas, je parle en France. Hein, voilà. Et moi, j'ai été formée dans les années 2000 par ces gens-là. J'ai plutôt travaillé avec ces gens-là. Mais avant ça, j'ai été formée en jazz, avec la danse classique, donc avec une certaine ouverture, un goût pour la danse qui était autre, en fait, et une éducation aussi de danse qui était autre. Et aujourd'hui, en tant que spectatrice, j'aime tout voir de la danse, voilà. Et ça ne veut pas dire que j'aimerais faire des choses que je vois et que j'aime moins, mais j'aime tout voir. Et là, je parle de catégorie de genre, mais je déteste aussi ça. C'est-à-dire que je déteste les classifications. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire la non-danse. C'est super si on peut mettre des mots dessus, puisque ça permet d'avoir des repères. Mais finalement, j'aime bien aussi, moi, à un moment donné, et c'est pas de la provocation, mais si à un moment donné, je commence à utiliser des références qui sont liées au ballet, je sais que ça dérange. Et ça a dérangé dans cette pièce. C'est-à-dire que d'un seul coup... On m'a dit, mais Maud Le Pladec,
qu'est-ce que tu fais là,
on commence à faire du ballet. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, non, absolument pas. Parce que la pièce telle qu'elle est écrite, c'est tout le contraire de la façon dont on organise un ballet.
Et quand bien même,
je suis d'accord.
Non, mais c'est une vraie question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une chorégraphe encore tout à fait jeune et au début de la longue vie de chorégraphe qu'on vous souhaite. Et ce serait pas possible de faire du ballet?
Eh bien, ça serait apparemment pas possible de faire du ballet. Et ça me questionne beaucoup, effectivement. Même si ce n'était pas mon intention, absolument pas mon intention. C'est vrai que ce mot arrive beaucoup. Donc j'étais assez surprise, puisque moi, j'ai évidemment jamais eu envie de faire un ballet. Et c'est vrai que les premiers retours qui allaient dans ce sens-là, je ris un peu, je me disais, ah tiens, c'est vrai, c'est intéressant. Et je commençais à regarder finalement, enfin, à essayer de voir ce que les gens voyaient. Et je me disais, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, moi je sais que c'est pas vraiment ce que j'ai eu envie de faire, mais pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas, voilà. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème, je pense que j'aime la diversité dans la danse, j'aime que toutes les danses puissent exister.
Voir exister en même temps sur le plateau.
Et voir exister en même temps sur le plateau, même si c'était pas vraiment mon intention de départ, si c'est le cas, vraiment... Welcome, quoi, et c'est peut-être des fantômes de danse. Et ça, j'aime bien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur, enfin, on a beaucoup dans ces visions, voilà, qu'on a eues avec Pete Arden. On se disait comment c'est possible que les vestiges de Schubert puissent aujourd'hui habiter l'espèce de musique minimaliste qu'on a fait avec son œuvre, voilà. Donc c'est comme si Schubert hantait l'œuvre qu'on a créée. Et moi, je me souviens avoir beaucoup parlé avec la danse d'ornement, de choses qui finalement n'appartenaient pas à mon vocabulaire de danse jusqu'à présent. Voilà. D'ornementation, d'ornement, d'ensemble, d'unisson. Donc, oui, donc c'est possible finalement que tout ça se mélange. Voilà. Mais on travaille avec ce qui existe. En fait, tout est là. Tout est déjà là, on a juste pioché, en fait, dans l'histoire, dans nos histoires, dans le futur. C'est peut-être une pièce un peu anachronique, finalement, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça, pas du tout.
Puisque vous parlez de fantômes, je pense que c'est le moment de parler de lumière. Maud Le Pladec, il y a des moments où les choses apparaissent et où On a l'impression qu'en tout cas, vous êtes très clair dans les manières de les faire apparaître, tout aussi clair dans les manières de les faire disparaître par des jeux de lumière, noir, re-lumière, ou sortie complète des danseurs du plateau, ou surgissement des danseurs du public. C'est une autre dimension assez importante de la pièce. On a beaucoup parlé de ce qui se dansait à l'unisson, en solo, etc. Mais ces bords-là, qui sont incurvés du plateau, c'est des bords très perméables, en fait.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand j'ai parlé de la pièce avec Éric Soyer, qui a signé les Lumières, je lui disais « je veux que ça déborde du plateau ». Et en même temps, puisqu'on parle d'histoire et de choses que l'on a déjà vues, moi j'ai beaucoup fait ça dans mes pièces de Boris Charmatz notamment, j'ai beaucoup vu ça aussi. Donc
c'est-à-dire sortir,
aller carrément faire presque envahir le public, déranger, danser dans les spectateurs. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent. Donc je me disais, puisque ça a été... Moi je l'ai beaucoup fait, je l'ai beaucoup vu, comment est-ce que je peux le faire d'une manière très fine? Et presque comme ces deux bords, c'est rien, c'est de l'ornementation en fait, c'est juste une figure, une petite, c'est très fin. Donc voilà, je me dis, je veux que ça déborde, mais un petit peu, pas beaucoup, voilà. Donc on a eu cette idée finalement de faire, de soulever le tapis comme ça. Ça permet aussi, ça permet de donner une autre perspective, parce qu'on a aussi beaucoup déiré autour de ce mot perspective, voilà. Donc ça permet vraiment sincèrement d'avoir une autre sensation du plateau. Et puis après, en ce qui concerne les bords, j'ai joué beaucoup avec les bords, comment les danseurs pouvaient juste descendre, remonter, s'asseoir au premier rang, disparaître, revenir, mais en traitant de manière très précise et en finalement passant beaucoup plus de temps sur comment ils allaient se relever des sièges, est-ce que ça allait créer une image ou pas, comment cette image allait de nouveau rentrer dans l'espace. Donc c'est à la fois, ça m'a permis finalement de créer des images, mais ça m'a aussi permis de souligner des moments musicaux et dramaturgiques extrêmement importants dans la pièce. Donc juste avec une rangée de danseurs qui se soulèvent, qui viennent du premier rang, qui montent sur le plateau et qui marchent vers le fond, en fait c'est beaucoup plus lié à la musique, à l'architecture de la musique. Donc on est en train d'accompagner la musique et de donner à voir un grand moment à ce moment-là de la musique. Et aussi, dramaturgiquement, une bascule dramaturgique.
D'ailleurs, moi j'ai noté dans ces moments-là tragédie sur mon petit
Exactement.
Carnet.
Exactement. Et pourtant, ils marchent. Donc il n'y a rien de tragique dans ce qu'ils font. Encore une fois, c'est comme le fait de tourner sur soi-même, c'est un motif très simple. Mais comme ça, une rangée de personnes qui se lèvent d'un seul coup, moi je sais qu'ils vont le faire, mais vous ne le savez pas, eh bien, ça impressionne quasi plus que effectivement le gros unisson qu'il y a pu avoir sur ce premier mouvement de Schubert au début. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, puisque moi aussi, finalement, je découvre ça. J'ai découvert ça lorsque j'ai cherché et créé. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Le deuxième tableau est très minimal. C'est juste des entrées, des sorties, des gens qui se lèvent, des gens qui se posent, des gens qui sortent. C'est juste ça. Et il vient contredire tout ce qui s'est dit dans la première partie où c'est foisonnant, ça discute beaucoup, ça produit beaucoup, ça dégage beaucoup d'énergie. Et puisque ça s'est fait, bien on est allé en creux. Dans toute la deuxième partie, c'est vraiment que du creux et des choses très très simples qui viennent finalement mettre en exergue tout ce qu'il y a de puissant dans cette musique. Voilà.
France Culture, par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Maud Le Pladec.
Il y a une exceptionnalité de la démocratie. La démocratie, c'est une rupture avec le cours du monde, c'est une rupture avec l'ordre établi. Et il faut toujours revenir sur cette exceptionnalité avec cette idée qu'il n'y a pas une naissance de la démocratie, mais il y a en permanence des renaissances de la démocratie. Et là, je crois que, vous savez, il y a cette très belle phrase d'Anna Arendt dans son texte sur Benjamin, « Tant que nous aurons à la bouche le mot politique, nous n'aurons un rapport, que nous le voulions ou non, à la cité grecque. » Et puis également, alors il ne s'agit pas du tout de... Parce que je sais, ça a été très souvent dit à propos de Anna Arendt, mais on oublie l'autre chose qu'elle dit, c'est-à-dire aussi, cette démocratie, elle s'est manifestée dans les grandes révolutions modernes. Donc... Si vous voulez, donc voilà quelle a été ma position critique. Et je pense que nous en sommes au point, face à la banalisation de la démocratie, face à son appropriation par des forces de restauration, où il faut la qualifier. Donc là, bien, les qualificatifs qui existent pour l'instant, c'est... par exemple, Chantal Mouffe et Ernesto Laclos qui ont parlé de démocratie radicale, Claude Lefort qui a parlé de démocratie sauvage, et finalement, moi je me suis risqué à lancer le terme de démocratie insurgente.
La musique de Julia Wolf avec la voix de Miguel Abensour dans une archive qui date de 2009. Il était au micro de François Noudelman dans les Vendredis de la philosophie sur France Culture. Maud Le Pladec d'une part pour évoquer cette figure-là et d'autre part, philosophe donc, et d'autre part pour revenir sur les intuitions de spectatrices que j'évoquais au début de notre entretien, à savoir que dans ce ballet qui grince, j'y ai vu aussi des assemblées politiques qui n'y arrivaient pas complètement. Dans ces personnes qui sortent du plateau et y reviennent, j'ai vu aussi des possibles insurrections, en tout cas des levées de bonhommes et de bonnes femmes. Dans les solos, j'y ai vu des solitudes de citoyennes, de citoyens ou d'exercices du pouvoir. Dans les portées, j'ai vu des coopérations ou des élections. Bref, toutes des choses aussi qu'on peut appliquer à des pièces beaucoup plus classiques du Sacre du Printemps. Et j'y ai beaucoup pensé d'ailleurs en voyant cette pièce-là, 27 Perspectives. Alors voilà, quid de la politique, de la démocratie de Miguel Abensour ou de ses restes dans 27 Perspectives?
Je suis déjà très contente que tu aies vu ça, très heureuse d'entendre à nouveau la voix de Miguel Abensour, qui me manque beaucoup en fait. Voilà. Il y a tout ça dans mon travail, toujours en fait. C'est-à-dire que j'ai fait donc effectivement une pièce qui s'intitulait « Démocratie » à partir de l'œuvre de Miguel Abensour, donc « La démocratie contre l'État ». 27 Perspectives n'est pas coupé de ce qui se passe. Effectivement, c'est pas une pièce qui parle de ce qui se passe. Mais je suis moi-même très engagée. Donc mon travail est de fait l'est aussi. Après, c'est vrai que je ne parle pas dans 27 Perspectives à proprement dit de sujets en tout cas qui m'animent en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que féministe que je suis aussi. Voilà, c'est pas une pièce à propos de ça, c'est pas une pièce qui parle de ça. Mais si, au détour d'un geste, tout cela apparaît, ben, je suis très heureuse, puisque finalement, effectivement, je pense que c'est dans l'énergie qui se dégage de mes pièces aussi. C'est-à-dire que je me rends compte, en fait, que le prochain projet que je fais, pourrait s'appeler Climax, Tension, ça va s'appeler Static Shot, mais c'est, j'ai vraiment failli l'appeler Crash, quoi, Crash. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, quand j'entends, la musique de Julia Wolf, j'ai cette énergie-là. Lorsque j'ai découvert l'œuvre de Miguel Abinsour, c'était bien avant que tout cela n'apparaisse, en fait. Et je crois beaucoup à ces formes d'insurrection, inopinées. C'est-à-dire que des choses qui apparaissent entre. Donc si ça jaillit à travers une danse qui a l'air beaucoup plus balétique, enfin si toutes ces dimensions plus politiques, etc., jaillissent, quoi, arrivent, mais tant mieux, parce que c'est effectivement comme ça que je vis le monde. Moi, en tout cas, j'aime bien que cet aspect sauvage, ou que cet aspect, que cette urgence puisse exister. Et il y a une forme d'urgence dans 27 Perspectives. Il y a toujours une forme d'urgence dans mon travail. Donc, et il faut dire quand même que les danseurs survivent, hein. Ils sont dans un carcan chorégraphique et musical qui est extrêmement contraignant, ce qui rejoint tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a fait dans Démocratie. C'est les mêmes procédés, ce sont les mêmes procédés d'écriture. Voilà, après, j'ai pas effectivement fait une pièce à thème, voilà, dans 27 Perspectives. J'ai plutôt vraiment, et ça rejoint l'intention de départ, j'ai eu vraiment envie de me consacrer sur l'écriture musicale et l'écriture chorégraphique, et ça veut pas dire que tout ce qui m'anime n'est pas là.
Okay, quid des portées?
Alors les portées, c'est un peu, il y a un porté.
Bah ouais, je sais pas.
Il y en a
qu'un. C'est suffisamment marquant pour que j'ai envie de poser cette question parce que je les ai tellement en tête.
Il y a un pas de deux même. Il y a un porté. Il y a un pas de deux. Voilà. Et qui est vraiment la référence balétique du projet. Voilà.
Une blague ou comme?
C'est pas une blague. C'est comme un essai. C'est comme une tentative. C'est comme j'aime bien finalement essayer des choses. Moi, je suis pas musicienne et finalement, je travaille avec la musique depuis des années maintenant. J'avais vraiment envie de cette espèce de moment romantique. En fait, c'est la note de romantisme de Schubert, voilà. Je me suis dit, il faut à un moment donné quand même aller dans le sens de ce qu'est Schubert, voilà, de ce qu'est cette musique, et de manière extrêmement littérale. Donc c'est le moment le plus, le plus littéral, le plus évident, et qui en fait est le moins évident, parce qu'effectivement c'est très loin de ma culture, c'est très loin de ce que j'ai pu faire dans d'autres pièces, c'est un pas de deux classiques, quoi. C'est vraiment dans sa pure tradition.
Et bah, tant qu'on est du côté des traditions, quid d'un solo, en tout cas ce solo qui, on peut dire, je crois, inaugure la deuxième partie de votre pièce, Maud Le Pladec, qui est un solo d'un calme tellement mélancolique, c'est-à-dire que, quand je dis tout à l'heure, pourquoi pas la solitude de l'exercice du pouvoir, il se passe quelque chose pour ce danseur qui est un homme sur ce plateau qui est quasiment métaphysique, quoi. Mm-hmm. C'est que là, sa traversée du plateau qui est plus du tout blanc, qui est plus du tout fluorescent, qui est, je sais pas, qui devient très intérieur.
Mais là, on touche vraiment le projet. Et ce qui m'a, quand vous dites métaphysique, c'est-à-dire que si la dimension politique dans 27 Perspectives, je ne la vois pas tant que ça, ce qui est sûr, c'est que des questions plus métaphysiques, ésotériques, spirituelles commencent à apparaître dans mon travail. Voilà, ce qui finalement me représente un peu plus. Et c'est vrai que c'est Régis Badel, en fait, qui est le danseur qui danse ce solo, pardon. Et c'est un moment très important pour moi dans cette pièce. C'est le moment de transition, c'est-à-dire qu'on sort du foisonnement et de l'espèce de vague d'énergie qu'on s'est prise dans cette première partie. Et c'est lui qui va nous amener, grâce à ce solo, petit à petit, à descendre dans les limbes d'un Schubert, en fait, beaucoup plus calme. Moi, je me souviens, c'est encore des images, hein. Je suis toujours traversée par beaucoup d'images lorsque je crée, mais je me disais que j'avais envie de visiter cette musique comme on visite un lieu désaffecté ou une maison en ruine. Et donc on va visiter Schubert qui est comme si Schubert était une sorte d'édifice comme ça, de maison qui en fait dont il restait certains vestiges. Et avec c'est une promenade en fait. Donc il nous prend la main et il nous amène vers ce deuxième mouvement qui est effectivement beaucoup plus suspendu, avec des moments de clair de lune, des moments de noir, des moments de vide. C'est très vide. Le deuxième mouvement, il y a presque, on est passé du très plein au très vide. Et c'est personnellement le moment de la pièce que je préfère. Voilà. Donc et si j'y vois pas du politique, j'y vois beaucoup de. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, le calme, la sérénité, la spiritualité, ne pas avancer, rester immobile serait peut-être la posture la plus politique qu'il soit. Voilà. Donc, c'est peut-être ça. Voilà, le politique dans 27 Perspectives.
La philosophie part de la conditio sine qua non, je crois. C'est l'étonnement, non? Ça a quelque chose comme un questionnement, poser des questions d'une façon émerveillée, de vouloir savoir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui disparaît. Et je crois que dans ce sens-là, l'art et la philosophie sont très proches. Pourquoi est-ce que j'aime tellement la danse? Parce que c'est pour moi l'abstraction. Je me considère comme quelqu'un de assez émotionnel. Opposites attract, un très grand degré de formalisme et d'abstraction. Je sais pas, de comment définir quelque chose entre quelque chose qui est individuel et quelque chose qui est universel, quoi. Comme je disais avant aussi, la danse est quelque chose, ce n'est pas seulement une façon de bouger ou une façon de respirer, mais c'est aussi une façon d'être dans le monde, c'est aussi une façon de réfléchir. Et pour le dire d'une façon marxiste, pas de théorie sans la pratique et pas de pratique sans la théorie. Voilà.
En se faisant rencontrer Pete Arden et la voix de Anne-Thérèse Atkersmaeker, qu'on va terminer cette émission avec vous. Maud Le Pladec, je sais pas, peut-être une réaction assez simple à ce que vient de dire Anne-Thérèse Atkersmaeker. Elle était au micro de Laura Adler en 2018 dans l'émission L'heure bleue. À son dernier propos, pas de théorie sans la pratique, pas de pratique sans la théorie.
Elle a tout très bien dit. Hein. Non, je repensais à ce dont on parlait et je pense qu'effectivement, moi, je pratique beaucoup la méditation et ce deuxième mouvement est très méditatif finalement. Et je pense que c'est ça qui apparaît aussi de plus en plus. Pratique, je sais pas en fait ce que vous voulez dire. Enfin, je suis d'accord. Pratique, théorie.
Alors aller sur un terrain très 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 pratique, je me disais peut-être pour sortir de ce travail-là, 27 Perspectives, qui est l'autre chose que vous faites beaucoup dans votre vie, c'est-à-dire diriger un centre chorégraphique à Orléans, et qu'une fois qu'on a dit toutes ces choses-là et qu'on les a faites sur un plateau, qu'est-ce qu'il en est quand on est dans un autre endroit de la société, qu'on doit s'occuper d'un lieu, s'occuper de faire vivre la danse, s'occuper d'accueillir un public, s'occuper d'aller voir du public, ça pourrait être ça la pratique.
Voilà, donc cet aspect-là de ma vie, puisque on va mettre de côté la femme que je suis, on va parler plus de la directrice que je suis devenue. Là, on est dans la pratique, hein, on est plus que dans la pratique, on est dans l'expérience même. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là avec ce nouveau projet de direction du Centre chorégraphique national d'Orléans, parce qu'effectivement, c'est être sur le terrain, c'est mettre en pratique de manière extrêmement concrète toutes les valeurs en fait qui traversent mon projet chorégraphique, voilà. Et ça, à travers toutes les missions qui sont associées au CCN, c'est-à-dire que normalement, un centre chorégraphique, la mission première, c'est de soutenir le travail de l'artiste directeur. Et moi, j'ai envie que effectivement, ça fasse partie des missions, mais j'ai pas envie que ça soit la priorité. La priorité, c'est que j'ai envie que ça soit un lieu ouvert pour tous. J'ai envie qu'on transmette un maximum de choses à un maximum de gens, de transmettre le goût que j'ai encore pour la danse et qui est très proche de celui qui m'a animée depuis que je suis toute petite. Que je fasse profiter à des jeunes personnes et des moins jeunes personnes, des cadres dont j'ai pu profiter puisque je viens d'un milieu extrêmement populaire et j'aurais jamais rencontré la danse si la danse n'était pas venue dans mon collège, si la danse n'était pas venue dans mon lycée, si la danse n'était pas venue dans mon école. Ça, c'est une chose presque de base, en fait, qu'on fait tous les jours au quotidien. Et puis après, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que le centre chorégraphique, plus qu'un projet qui est accolé à mon travail, c'est toute une équipe qui se met au travail tous les jours pour l'animer d'une certaine manière, proposer des festivals qui soient à la fois ouverts, festifs, conviviaux, voilà, et qui proposent des artistes qui viennent de partout, d'ici et d'ailleurs, pour finalement toujours se retrouver ensemble, parce que moi je participe à tout, donc j'essaie de tout faire, je suis très fatiguée parce que ça fait beaucoup plus de travail finalement. Mais en tout cas, je suis pas toute seule, on est vraiment contents, ça fait seulement 2 ans, puisqu'on a fait tout ce qu'on a dit qu'on ferait, déjà, et que les choses se passent au mieux et avec un maximum de gens, voilà, à Orléans. Donc voilà, c'est la pratique, en théorie, c'était un projet sur le papier, la pratique, c'est que ça se fait avec beaucoup de cœur, je crois, et de générosité. Et voilà, c'est ce dont j'avais envie avant d'arriver à Orléans.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.
Merci beaucoup, Maud Le Pladec. 27 Perspectives se joue en ce moment jusqu'au 3 avril au Théâtre National de Chaillot à Paris. Et puis d'autres personnes pourront le revoir fin 2019, début 2020. Allez, on va y aller là. Alors, c'est fini. On y va. Au son ce soir, c'était Olivier Dupré. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Barré d'ailleurs. Merci beaucoup à Jeanne Alléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Valentin Rémy qui m'aident à penser, préparer et fabriquer cette émission, parfois très très vite. Un grand merci à eux. À demain soir, dans un instant, le journal sur France Culture et toutes les informations, podcasts, archives, références musicales, franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent.